15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets, sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la voix. Comment expliquer que les premiers hommes se soient mis à parler, quelle est l'histoire de notre voix et le secret surtout de ceux qui l'utilisent de façon exceptionnelle, ces athlètes de la voix comme Céline Dion ou Maria Carré, avec notre invité, le grand spécialiste de la voix, le docteur Jean Habitbol, ORL et phoniatre, d'ailleurs de nombreuses stars de la chanson. On tentera de répondre à toutes ces questions. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la fièvre, quand notre température corporelle grimpe, que se passe-t-il réellement dans notre organisme et surtout, à partir de quand faut-il s'inquiéter. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler de l'hallux valgus, un nom un peu barbare, pour ce qu'on appelle aussi l'oignon au niveau des pieds. On fera le point sur ce qu'est cette déviation vers l'extérieur du gros orteil. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de ces personnes qui détestent qu'on les touche, que ce soit pour de simples massages ou comme lors des rapports sexuels. D'où peut venir ce problème? Elle nous dira tout.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Et donc pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on écoute la première, c'est celle de Madeleine, 38 ans.
Bonjour docteur Mohamed, bonjour Mélanie. J'ai commencé le mois sans tabac au début du mois de novembre. Et en quelques jours, là j'ai déjà pris 2 kilos. Voilà, je voulais savoir à quoi c'était dû. J'avais entendu que le tabac faisait maigrir, est-ce que c'est vrai? Voilà, merci pour vos réponses.
Une copine de moi sans tabac. Bon, Jimmy, est-ce que lorsqu'on arrête de fumer, c'est obligatoire de prendre du poids? Une conséquence que redoutent beaucoup de fumeurs, de fumeuses même, c'est vraiment obligé?
Bah non, c'est comme les antibiotiques, la prise de poids n'est pas systématique.
Ah, bravo.
Un tiers des fumeurs ne prennent pas de poids, il y en a même 5% qui vont en perdre.
Ah, vilain, juste, j'aurais bien aimé dans cette morceau-là, moi. Ouais.
Et les autres, bah, ils vont reprendre le poids qu'ils auraient eu s'ils n'avaient jamais fumé. Et puis évidemment, il y en a une grande partie qui vont aussi prendre du poids du fait de mauvaises habitudes qu'on va acquérir suite à l'arrêt du tabac.
Mais alors pourquoi on grossit quand on arrête de fumer souvent? Parce que moi ça a été le cas quasiment à chaque tentative. Là c'est la cinquième, ça va, mais les quatre premières fois j'ai pris au moins 5 kilos à chaque fois.
Eh ben oui, c'est un peu la norme, on verra. Mais la nicotine, en fait ça agit comme en diminuant l'appétit, ça permet d'augmenter les dépenses énergétiques et ça ralentit le stockage des graisses. Et donc ça agit un peu comme un coupe-faim. Et puis on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on va avoir de mauvaises habitudes pour pallier l'absence de ce geste quotidien. Ouais. Et ben on va avoir tendance à compenser avec du grignotage parce qu'on est parfois un peu stressé avec l'arrêt du tabac et donc on prend du poids.
Alors, il n'y a pas aussi le fait que lorsqu'on arrête, au bout de quelques jours, on a l'impression, vraiment, ça aussi je confirme, que tout a meilleur goût, c'est fou quoi.
Et oui, effectivement, l'arrêt du tabac, donc ce qui est plutôt bien, c'est qu'on retrouve un peu d'odorat et donc les aliments ont forcément plus de saveur.
Le chocolat est encore meilleur qu'avant, moi je trouve.
Et oui, mais résultat des courses, on prend entre 2 et 4 kilos en moyenne. Oui. Donc il faut faire attention parce que ça peut être décourageant. On peut se dire, bah, je prends du poids donc je vais m'arrêter. Or, c'est une très bonne chose et donc il ne faut pas hésiter à compenser peut-être avec une activité physique ou en surveillant son alimentation.
Mais pas question non plus de se mettre au régime draconien en même temps qu'on essaie d'arrêter de fumer. On ne peut pas mener tous les combats en même temps quand même.
Et puis vous allez créer des frustrations et puis vous allez être découragé et abandonné. Donc il faut veiller à avoir une alimentation variée, essayer de se mettre à courir ou à une activité physique qui nous plaît. Ça peut être de la danse ou autre chose.
Hein. Pourquoi
je crois
la danse?
Je crois que vous êtes inscrit dans Mélanie.
Oui, je vais reprendre la danse classique bientôt. Ouais,
bah, c'est une activité physique, c'est très bien. Et donc ça permet de réguler son métabolisme. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis n'hésitez pas à consulter votre tabacologue ou appeler le 3989 sur Tabac Info Service. Vous aurez plein de conseils pour vous aider à poursuivre et à encourager cette bonne initiative.
Et 3981, donc c'est Tabac Info Service, c'est gratuit. Il y a même des conseillers qui nous aident justement en nutrition, hein, c'est ça?
Et c'est totalement gratuit. Donc c'est un service public, il ne faut pas hésiter de s'en servir. Car l'arrêt du tabac, franchement, c'est quelque chose de vital. Et même si effectivement c'est compliqué, une fois le premier mois passé, vous avez d'énormes chances de maintenir cet arrêt.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question. Cette fois c'est Kiki, on l'écoute.
Bonjour Mélanie Gomez et Jimmy Mohamed. Est-ce qu'un enfant de 3e année de maternelle peut être puni parce qu'il va, il demande d'aller faire pipi 2 fois dans la matinée, en dehors de la récréation? Parce que je voudrais savoir si ça a une conséquence sur sa santé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. J'adore votre émission.
Alors, d'abord, on va quand même répondre, enfin, on va surtout donner peut-être notre avis, parce que là, c'est pas tellement médical, mais moi, je suis assez surprise et même choquée d'apprendre qu'on peut punir un enfant de cet âge-là, donc en maternelle, parce qu'il demande seulement à aller faire pipi. Je savais même pas que ça existait, ce genre de punition. Pour moi, on punit un enfant quand il a fait une bêtise ou quand il s'est mal comporté avec un camarade. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez déjà sur le principe de punir un enfant qui demande à aller faire pipi?
Déjà, de base, toutes les études montrent que la punition n'est pas un bon mode d'éducation. C'est absolument pas pédagogue que de punir un enfant. Et d'autant plus lorsqu'il veut aller aux toilettes, donc c'est complètement débile, on va dire les choses telles quelles. Ça relève même peut-être de la maltraitance punir un enfant, car un enfant va 5 à 7 fois aux toilettes pour uriner, parfois 2 à 3 fois par jour. Ouais. Et puis ça peut être modulé par plein de facteurs. Donc un enfant qui veut aller faire pipi, même s'il fait pipi que quelques gouttes, eh ben, il faut le laisser. Alors évidemment, si ça devient un jeu et qu'il demande 10 fois pour trouver un échappatoire et pas être pris en classe, c'est autre chose. Mais demander 2 fois dans la matinée d'aller faire pipi, c'est tout à fait normal. Et lui refuser, au contraire, c'est un peu de la maltraitance.
Alors au-delà de notre avis moral, on va dire sur cette question, est-ce qu'il peut y avoir une raison médicale qui pousse un enfant de maternelle comme ça à avoir envie d'aller uriner tout le temps?
Ça peut être le stress, hein. Faut pas oublier que la maternelle, c'est un bouleversement pour l'enfant. L'anxiété peut accélérer la vidange au niveau de la vessie. Donc un enfant qui est angoissé, qui cherche, qui sait pas trop où trouver ses marques dans la classe, peut avoir envie de faire pipi plus souvent. Donc après, il peut y avoir certaines pathologies, mais dans ces cas-là...
Le diabète, par exemple, c'est très
bruyant. C'est un enfant qui perd du poids, qui boit énormément, qui pisse énormément, qui a mal au ventre, c'est très bruyant. Et surtout, on l'a dit, il y a une perte de poids. Donc si vous avez l'impression qu'à la maison, ça se passe bien et que c'est que à l'école, ben, c'est que peut-être qu'il y a un petit problème psychologique, un camarade qui l'embête, une situation d'angoisse. Bref, on ne laisse pas un enfant ne pas aller aux toilettes, car il risque d'infection urinaire. Un enfant qui se retient d'aller faire pipi, c'est un enfant qui peut avoir une infection.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Kiki qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous expliquer tout sur la fièvre. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Jean Habitbol. Je suis en train de perdre ma voix, ça tombe bien. Il va nous parler aujourd'hui d'un très bel ouvrage qu'il vient de publier sur l'histoire de la voix. Il nous dit tout dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Jean Habitbol, qui va nous aider à percer les mystères de notre voix, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, c'est la période des virus et les enfants, mais aussi les adultes, peuvent avoir de la fièvre, ça semble évident. Mais pouvez-vous quand même nous rappeler ce qu'on appelle finalement avoir de la température?
Oui, car les parents sont un peu perdus avec ce chiffre. Parfois, ils ne savent pas exactement. La définition, elle est claire, elle est unique, elle est consensuelle. C'est au-dessus de 38 degrés, en l'absence d'activité physique intense, chez un enfant qui est normalement couvert, exposé à une température ambiante tempérée.
D'accord.
Donc ça veut dire que si votre enfant il a 4 couvertures sur lui,
c'est normal
il
qu'il
peut
soit
avoir 38,
38,
mais attention, mais il ne peut pas avoir 39 avec plein de couettes. Parfois les parents me disent il était bien couvert, il a 39,5. Non, c'est qu'il y a une infection en cours.
D'accord, alors comment on la mesure? Le pistolet là, infrarouge, moi j'en ai acheté un, c'est pas mal, non?
Oui, non, chez l'enfant, la méthode de référence, c'est par voie rectale. On met le thermomètre
dans
le...
Ils n'aiment pas trop ça, les enfants.
Et oui, ils n'aiment pas. Et maintenant, je me rends compte que c'est les parents qui n'aiment pas et qui disent oh là là, on a peur de lui faire mal.
Moi je m'en fous, c'est juste que j'arrive plus à les attraper maintenant. Hein,
oui, c'est encore autre chose. Ouais, je crois que votre grand, il est grand. Mais quand ils ont 2, 3 ans ou quelques mois, c'est la température dans les fesses. Et moi je trouve ça beaucoup plus gênant qu'un parent ne sache pas s'il a de la fièvre plutôt que lui mettre un thermomètre dans les fesses. La température axillaire, c'est-à-dire sous le bras, c'est la moins précise, car il faut rajouter entre 0,5 et 1 degré, et ça dépend des thermomètres.
D'accord.
Certains veulent utiliser les pistolets infrarouges, pourquoi pas, mais ça coûte assez cher, entre 30 et 50 euros. C'est un peu aléatoire. La mesure de référence aussi, c'est dans l'oreille. Donc ça marche bien, parce que c'est la température centrale, et donc on n'a pas besoin de rejeter des degrés.
Ah là, c'est pareil, dans l'oreille, c'est bon. Hein,
dans
c'est
l'oreille,
la bonne
c'est bon, mais il faut bien mettre, parce qu'il faut avoir la bonne technique, il faut bien mettre l'embout du thermomètre au fond de l'oreille, sinon ça ne marche pas.
Pas trop profond non plus, quand même, j'imagine.
Pas de risque de perforation, mais si vous n'allez pas au fond, vous aurez une température superficielle.
D'accord.
Mais quand vous avez un doute, le thermomètre dans les fesses.
D'accord, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter vraiment?
Alors, la majorité des fièvres, chez l'enfant, elle est plutôt virale. Elle ne justifie aucun examen particulier et s'améliore dans les 72 heures. Alors, il ne faut pas oublier que la fièvre n'est que le symptôme d'une infection sous-jacente ou d'une maladie.
Bien sûr.
Trois cas de figure qui doivent vous alarmer. Un enfant de moins de 3 mois égale consultation en urgence, car ça peut être le reflet d'une infection bactérienne.
Bien sûr, un tout petit.
Évidemment, si votre enfant a un terrain particulier, il est immunodéprimé, il est drépanocytaire, diabétique.
Bon, ça, ce sont des cas,
voilà,
bien
dans
sûr.
Dans ces cas-là, évidemment, il faut consulter. Et puis, lorsqu'il a de la fièvre, il faut rechercher les signes de mauvaise tolérance. La mauvaise tolérance, c'est le faciès de l'enfant. Un enfant qui serait pâle, avec les lèvres bleutées, avec un contact inquiétant, qui ne joue plus, qui est somnolent, qui est geignard, qui est douloureux, plaintif, les extrémités froides, une peau marbrée. Tous ces éléments, pris séparément, doit vous faire amener à consulter et au moindre doute, vous passez un coup de fil à votre médecin traitant.
Oui, je sais, parce que moi, ma pédiatre me disait toujours, même un 39 bien toléré, vous n'avez pas besoin de donner du paracétamol.
Exactement.
Alors justement, il faut donner du paracétamol, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire ?
Alors, on peut donner du paracétamol, mais seulement si la température est mal tolérée. 39, ce n'est pas un signe de gravité.
S'il est bien.
S'il est bien, on donnerait. On cherche à traiter le confort, pas le chiffre. Il y a trois choses qu'on peut faire. On donne à boire régulièrement, on retire les couches superficielles et on ne les met pas en couche. C'est souvent très mal toléré et on aère la pièce. Petite précision, les bains frais, ça se fait plus.
Bah oui,
2 degrés en dessous, c'est très mal toléré. N'oubliez pas que le système cardiovasculaire des nourrissons est plus fragile et qu'il peut faire des malaises dans le bain.
Ah oui, donc
on ne donne pas de bains frais, on les fait boire, on déshabille et on aère.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Jean Habitbol, ORL, phoniatre et chirurgien cervico-facial. Il est l'auteur de La belle histoire de la voix chez De Bock.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Habitbol.
Bonjour.
Alors votre ouvrage qui est magnifiquement illustré, d'ailleurs je le précise aussi, dans celui-ci vous nous proposez un voyage dans le monde de la voix.
Oui.
Et tout commence dans votre bouquin avec les premiers hommes. Moi j'ai trouvé ça passionnant. Vous expliquez que c'est notre verticalité qui a fait que tout d'un coup on a eu une voix.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait la verticalité de l'homme va permettre trois choses. La première, la mise en place de l'instrument de la voix. La voix c'est quoi ? La puissance de notre voix c'est le souffle pulmonaire. La vibration c'est les cordes vocales qu'on a dans le cou. Et puis la caisse de résonance. Si je vous dis 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 comme ça, ma voix n'est pas la même, la caisse de résonance vient de changer. Et ça, c'est la verticalité. Comment ? Parce qu'au moment où la verticalité se met en place, le larynx va descendre de la première vertèbre cervicale à la cinquième vertèbre cervicale.
Ça fait quelques centimètres,
mais,
ça. Hein ?
Oui, mais ce qui est absolument passionnant, c'est que grâce à cela, le larynx descendant, eh bien, nous pouvons faire les voyelles A, E, I, O, U.
Ah.
Donc, on a une voix articulée. Deuxième élément, on peut, entre l'âge de 1 jour et 18 mois, respirer et parler en même temps. Mais ceci n'existe plus après 18 mois. Essayez de parler et d'avaler en même temps, vous ne pourrez pas.
Non.
Et là, de parler et d'avaler en même temps, vous ne pourrez pas. Et là, justement, c'est là où on a un problème. Et c'est la trace de l'époque des mammifères, justement, et des primates.
Jimmy ?
À partir de quand s'est-on intéressé médicalement, scientifiquement à la voix ?
Depuis 1854. 1854, Manuel Garcia, qui était d'abord un chanteur, dont le père était chanteur, s'est posé la question comment fonctionne la voix, parce que lui-même, à un moment donné, avait du mal à chanter. Et en 1854, il a une idée géniale, c'est de regarder les cordes vocales avec un miroir qu'on appelle un miroir en dentiste, qu'il a acheté rue des Saint-Pères, à côté de la fac de médecine de l'époque. Et il a eu l'idée de prendre la lumière du soleil par réflexion avec différents miroirs pour voir l'intérieur du corps. Et n'oublions pas que l'intérieur du corps est noir, on ne voit rien. Si on n'a pas de lumière, on ne peut rien voir. Et c'est ça le génie. Mais ce qui s'est passé, c'est que grâce à cela, il a pu observer la voix de la Malibran, qui était l'une des plus grandes cantatrices de l'époque, qui nous a quittés à l'âge de 27 ans, donc très jeune, à la suite d'un accident de cheval d'ailleurs. Et sa voix était tellement superbe qu'elle avait complètement subjugué la totalité de l'opéra. Et jusqu'en 1984, l'observation des cordes vocales se faisait toujours avec la même technique.
Jusqu'à ce que vous inventiez la vidéo et
une technique plus... Voilà, c'est-à-dire que j'ai mis au point une technique, j'aime pas trop le mot inventer, j'ai mis au point une technique qui a associé plusieurs éléments, c'est-à-dire l'observation par fibroscopie des cordes vocales, la lumière qui arrive dans la gorge, mais surtout de passer par le nez, qui fait qu'on a pu observer les ventriloques, parce que comment voir un ventriloque si on regarde par la bouche, et comment comprendre l'artiste qui chante très fort si on passe par la bouche.
Docteur Habitbol, on va poursuivre cet entretien passionnant dans quelques minutes, surtout vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on continue à parler de l'histoire de notre voix, mais d'ailleurs, comment ça fonctionne, la voix ? C'est un instrument assez complexe, un instrument à cordes et à vent, vous allez voir. Pourquoi les femmes ont en général une voix plus aiguë que les hommes ? Vous verrez, il y a une histoire d'hormones là-dessous. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean Habitbol, ORL, phoniatre et chirurgien cervico-facial. Vous êtes un grand spécialiste de la voix. Alors docteur, on parle de la voix, vous avez expliqué son fonctionnement. Mm-hmm. Mais d'abord, est-ce qu'on a tous vraiment une voix unique ou pas ?
On a tous 7 milliards d'individus, 7 milliards de voix uniques. C'est une signature, c'est l'empreinte de votre personnalité, presque beaucoup plus que votre empreinte digitale, puisqu'on arrive pratiquement à truquer l'empreinte digitale, la voix même. Pour les imitateurs, qui sont les artistes des artistes,
ah oui.
Les ventriloques, qui sont les magiciens de la voix, dont on parle dans le livre, eh bien, eux ont toujours une signature vocale qui est à eux. Par exemple, Laurent Gérard qui va imiter Charles Aznavour, ou Michael Gregorio qui va imiter Charles Aznavour, on sait que c'est Michael Gregorio qui imite. Et là, on a effectivement une signature particulière.
Jimmy ?
Pourquoi est-ce que les hommes ont une voix généralement plus grave que celle des femmes ?
Alors,
généralement, parce qu'il y a des femmes.
Non. Le mot généralement est juste parce, dans la mesure où On est XX pour la femme, XY pour l'homme. On va se positionner, est-ce qu'à ce moment-là, les hormones, la puberté, la voix de l'enfant est une voix à la limite asexuée? À l'âge entre 10 et 14 ans, en fonction des cultures, en fonction des civilisations, en fonction des continents, la puberté se fait. Eh bien, chez la femme, on n'a pas l'imprégnation massive de l'hormone mâle qu'on appelle la testostérone. Chez l'homme, oui. Et cette testostérone, ces hormones mâles, vont entraîner la masculinisation de la voix. La preuve en est, on en parle d'ailleurs, c'est les castrats. Les castrins, on les castrait avant la puberté, des garçons bien sûr, et garder une voix, non pas de femme, mais une voix d'enfant, qui est 3 octaves au-dessus de la voix de l'enfant, de la voix de la femme.
Si on castre après la puberté,
exactement.
Par contre, ça marche
et
pas.
Et là, la castration donne une voix qui est une voix dite de femme, pas du tout, elle donne une voix d'enfant, et ils gardent leur voix d'enfant. Mais dans la mesure où ils avaient le chromosome Y, ils gardent la puissance de l'homme, la cage thoracique de l'homme, les hormones de croissance de l'homme. Donc, il y a une voix aussi puissante qu'un homme, mais avec une voix dont les tessitures, c'est-à-dire la hauteur de la voix et la voix de l'enfant.
Est-ce qu'on peut faire des chirurgies esthétiques de la voix? Il y a des gens qui viennent vous voir en disant « je veux la voix de Simone Signoret ».
Oui, oui, on vient voir pour ça, mais le problème, c'est que la voix, c'est le reflet de votre personnalité, c'est le reflet de votre âme, c'est le reflet de quelque chose de très fort. Et si on veut changer sa voix, à moins d'avoir 1m90 et de parler comme ça, là, ça ne va pas le faire. L'harmonie entre la voix et le corps ne se fait pas. Il faut d'abord, dans la majorité des cas, 98% des cas, même plus, d'abord faire une étude psychologique là-dessus, le pourquoi du comment.
Alors, le timbre de la voix, ça peut être un outil de séduction, ça on le sait. D'ailleurs, est-ce qu'on a étudié la question, est-ce qu'il y a une voix sexy universelle? Alors, je vais vous en faire écouter une quand même. Les voix graves, par exemple, voilées, celle de Jeanne Moreau ou de Simone Signoret, on les connaît. Il y a celle de Fanny Ardant aussi, je vous propose d'écouter un petit extrait.
Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis.
Tu veux plus qu'on dorme ensemble?
Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi.
Alors c'est sa voix dans un film La Belle Époque qui est sorti en septembre. Alors, ça c'est la voix sexy par excellence
ou pas? C'est voix de séduction qui est un thème dans le livre. D'ailleurs, c'est des voix dans lesquelles vous avez une résonance grave, une résonance de velours et qui est superbe. Mais ces voix sexy de la femme, on peut le retrouver également chez l'homme. Qu'on a des hommes comme par exemple Philippe Lelouch, comme Gérard Darmon par exemple, sont des voix extrêmement graves également. Alors quelle est la différence? La différence, c'est que chez la femme, le timbre grave existe, mais la signature est la signature des timbres aigus. Donc, la voix grave devient l'écrin de la voix aiguë. Et un beau diamant n'existe que si son écrin est beau. Pareil pour l'homme. Donc, en fait, la voix de Fanny Ardant qui va nous envoûter, c'est cette voix de velours, un peu comme Jeanne Moreau, effectivement. Eh bien, ces voix-là ont ce côté féminin. Et une voix grave ne veut pas dire une voix d'homme. Pas du tout. C'est la façon dont elle va être gérée.
Alors, docteur Abdebol, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va s'intéresser à ces voix qui en imposent, les voix du pouvoir. On fera un test avec celle de 2 présidents, justement. Notre invité les analysera pour nous. Et puis, on parlera aussi de la voix en tant qu'instrument. Savez-vous, justement, que l'instrument de musique le plus proche de la voix humaine, c'est le violoncelle. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Ça, c'est une musique.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean Abitbol, ORL, phoniatre et chirurgien cervico-facial. Alors vous êtes un grand spécialiste de la voix. Il y a quelques minutes, vous nous avez parlé de la voix en tant qu'outil de séduction, mais la voix, c'est aussi un outil qui rassemble ou qui aide à diriger. C'est quoi les caractéristiques, si ça existe, d'une voix de leader, quoi?
Alors, il y en a 8 que j'ai décrites dans le livre et dans un livre précédent qui s'appelle « Le pouvoir de la voix ». Et en fait, il y en a 8. Il y en a 4 qui ont été découverts en 1939 avec Chacotin et puis 4 que j'ai trouvé tout à fait avec l'expérience de 30 ans. Les 3, c'est le plus important. Le premier, c'est la voix de la séduction. C'est-à-dire, s'il y a une voix qui se met à parler comme ça pour gérer,
ça va pas être terrible pour avoir du pouvoir.
Le deuxième, c'est le côté spirituel, c'est le côté rêve, c'est le côté où quand je vais vous parler, je vais vous faire rêver. Donc, je vais vous amener avec moi. Et puis, le troisième, c'est ce qu'on a avec mon collègue souvent quand on parle scientifique, c'est le côté expert. C'est-à-dire qu'on va parler de quelque chose, lui et moi, on sait de quoi on parle, on sait comment on en parle et on peut le démontrer ou le pouvoir aller chercher sur Internet, c'est vrai ou pas. Et quand on a un discours d'expert associé à la sensualité de la voix, associé au charisme et bien sûr et associé à l'homme en question avec une voix bien timbrée ou une femme bien timbrée, c'est ce qu'on a de plus en plus aujourd'hui et c'est superbe. Eh bien oui, c'est des voix des leaders.
Alors justement, pour écouter des voix de leaders, on va prendre les voix de 2 présidents de la République, par exemple. On va en écouter 2. Écoutez.
Je n'ai nullement l'intention de créer les conditions d'une crise politique qui ne profiterait qu'à la gauche et qu'aux extrêmes. Je continuerai donc mon travail au gouvernement au service de la sécurité des Français.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet.
Alors vous aurez reconnu donc Nicolas Sarkozy en premier et Emmanuel Macron d'abord. Oui. D'abord prenons Sarkozy. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le président Sarkozy,
N'oublions pas qu'il est avocat. Donc il sait parfaitement gérer la rhétorique et l'éloquence. Il connaît les silences. Les mots, c'est des notes.
On l'a entendu dans ce discours.
Voilà. Les mots, c'est des notes dans la musique de la voix. Les pauses, ce sont des silences indispensables pour pouvoir que l'autre, laisser l'autre comprendre ce que vous allez lui dire. Donc c'est remarquable. Maintenant, quand on écoute la voix de notre président d'aujourd'hui, c'est fabuleux. Parce que dans cette espèce de entre guillemets, de voix très aiguë, c'est une sincérité authentique qui passe.
C'était un extrait de 2016 d'un meeting à Versailles, mais il n'a plus du tout cette voix aujourd'hui
non,
d'ailleurs.
Parce qu'il a su la gérer, mais là, à l'époque, c'est tout nouveau, c'est une voix dans la sincérité, dans la passion, qui passe au-dessus des règles de la voix pour faire persuader l'autre. C'est quelque part une voix qui voulait rassembler.
Jimmy ?
Et les voix des femmes dans tout ça, pourquoi elles sont plus souvent critiquées que celles des hommes ?
Alors, c'est depuis 1874 où une femme députée voulait être députée, puis on n'a pas voulu parce qu'elle était femme, parce que sa voix exaspérait. Mais plus que cela, c'est parce que dans la voix de la femme, très souvent, lorsqu'elle veut parler, comme elle a déjà un son aigu, plus elle veut parler vite, plus elle parle vite, plus elle parle vite, plus elle parle aigu, plus elle parle aigu, plus c'est désagréable. Et elle arrive mal à gérer, ce qui est de moins en moins le cas, pratiquement plus aujourd'hui, parce qu'elles savent gérer la voix, même lorsqu'il y a une passion derrière, eh bien elles vont gérer cette voix, car si vous criez fort, si vous parlez fort, vous tendez les cordes vocales, vous les allongez, vous créez à ce moment-là les cordes vocales beaucoup plus fines et vous montez dans les aigus, ce qui, au niveau de notre histoire, lorsqu'on était dans le ventre de notre maman, fait que nous attendions à l'époque les voix graves, parce que les voix filtrées au niveau du liquide amniotique, les graves passent, comme les baleines, dont je parle dans le livre, les baleines se font attendre à 10 000 km, un son très grave. En revanche, le son aigu est complètement effacé dans le liquide amniotique, donc on ne l'entend pratiquement pas. Et oui, c'est la raison pour laquelle c'est plus délicat aujourd'hui.
C'est vrai qu'on se moque plus souvent des voix de femmes politiques que des voix d'hommes. Hein. Ségolène Royal, il y a eu droit, Hillary Clinton aussi pendant sa campagne. La voix, ça a souvent été un argument de critique.
C'était un argument critique, mais de moins en moins aujourd'hui, parce qu'on a appris à les écouter, c'est important. On a appris à donner à la femme la possibilité de l'écouter complètement et pas de partir dans un inconscient cognitif qui était, il y a encore 50 ans, pas celui-ci d'aujourd'hui.
Alors, on va parler maintenant de la voix comme instrument. Est-ce qu'il y a un instrument de musique qui s'approche finalement? C'est lequel qui s'approche le plus près de la voix humaine?
Alors c'est le violoncelle, on en a parlé, c'est le violoncelle pour deux raisons. Le premier, c'est que le timbre du violoncelle, les cordes du violoncelle, les registres du violoncelle, c'est justement le registre de la voix humaine. Mais le second, c'est que c'est un instrument charnel. Regardez la forme du violoncelle, vous le prenez quand vous jouez du violoncelle, il est contre vous, il est contre votre thorax, vous le mettez sur le côté de votre épaule et vous le gérez comme ça. Donc il y a tout cet inconscient regardant cet instrument jouer par rapport à la voix.
Est-ce que la corpulence, par exemple, a un impact sur la tessiture de la voix ?
Alors oui, la corpulence a un impact, mais pas seulement un impact sur la tessiture, un impact sur l'état général de l'individu. J'en veux pour preuve que Maria Callas, qui est également dans le livre, dans Maria Callas, puisque chaque page est une histoire dans ce livre, et l'histoire de Maria Callas est extraordinaire. C'était une voix superbe en 1952. Elle chantait à la norme. Puis entre 1954 et 1956, elle a perdu 35 kilos en deux ans. Elle a perdu sa voix ? Non. Écoutez, la norme en 1958, elle était exceptionnelle également. Mais là, c'est là où c'est extraordinaire et passionnant. C'est que là, on arrive à écouter cette voix qui n'est pas tout à fait la même. Il y a les cicatrices de la vie, il y a la fragilité de cette voix. Et c'est ça qui est beau. L'imperfection de la voix, c'est la beauté d'une voix. L'imperfection de la voix, c'est le côté humain de la voix. Et c'est ça qu'on aime lorsqu'on entend une voix sincère et authentique.
Et pourquoi certaines personnes chantent faux, comme Jimmy Mohamed?
C'est gratuit, mais c'est vrai.
Est-ce parce qu'il a un problème de cordes vocales?
Non mais attendez, il n'est pas seul, moi aussi. Je rassure. Et à chaque fois que je suis dans des réunions familiales, il me dit surtout ne chante pas. Et donc je ne chante pas, mais je chante quand même. Tout simplement, c'est notre retour son. C'est-à-dire que quand on parle, notre voix que l'on va émettre passe des lèvres jusqu'à notre oreille. C'est le circuit extérieur.
Des mauvaises oreilles, c'est
ça. Et puis la vibration à l'intérieur de notre corps. Et c'est ça les imitateurs. C'est que quand ils parlent, ils s'entendent principalement, ils arrivent à squeezer la voix intérieure. Enfin, pas intérieure, vous avez compris. Mais la voix qui parle des lèvres à l'oreille. Et là, ils arrivent immédiatement à imiter quelqu'un. La preuve, c'est que certains imitateurs dont j'ai parlé m'ont imité dans mon bureau. Ils disent, mais je ne connais pas cette voix. Ils me disent, c'est la vôtre. Voilà.
Et puis à l'inverse de Jimmy, donc, il y a des athlètes de haut niveau de la voix, comme celle-ci, on l'écoute.
Il y a beaucoup de choses.
bah, c'était Céline Dion.
Oui.
Hein, Céline Dion que donc,
oui,
vous êtes le médecin d'ailleurs de Céline Dion depuis des années.
La première chose et la plus importante, c'est le côté athlétique, le côté hygiène de vie. Car vous savez, par exemple, dans l'hygiène de vie, quelle qu'elle soit, eh bien, vous avez des vitamines comme le dopastim, comme d'autres vitamines, également des vitamines anti-stress. Car quand on vient sur scène, même dans votre métier, vous arrivez, le stress peut casser une voix. Le deuxième, à part cette hygiène de vie, vous avez également le côté performance. Mmh. Donc ça, c'est un don.
Est-ce qu'elle a des cordes vocales qui sont mieux que les miennes, enfin, qu'est-ce qu'elles ont de plus que les miennes, ces cordes vocales à Céline Dion ?
Elles n'ont rien de plus que les vôtres, si ce n'est qu'elles sont entraînées 3, 4 heures, 5 heures par jour, et que comme un athlète de la voix, comme un athlète qui va faire le marathon ou un athlète qui va faire un 100 mètres, eh bien, il va entraîner non seulement la voix, mais la respiration, la puissance de cette voix, la façon dont il va la placer, la façon dont il va se déplacer sur scène et la façon dont il va cibler les différents concerts. C'est pas tous les jours qu'on va chanter et qu'on va faire 2h30 au marathon. Donc on sait comment gérer cette voix.
Jimmy ?
Vous avez parlé un petit peu des imitateurs, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on observe leur larynx ? Est-ce qu'ils savent finalement le manier un peu mieux que les autres ?
Absolument. C'est-à-dire que la larynx imitateur, grâce à la fibroscopie, je disais, la vidéofibroscopie, on passe par le nez, donc on leur fait chanter Charles Aznavour. Et puis, avec Michael Gregorio, on leur fait chanter Joe Cocker, que je ne connais pas, mais d'autres que je connais. Même type de chant de rock'n'roll que fait Laurent Gérard ou Michael Gregory, ils ont des cordes vocales asymétriques dans la majorité des cas.
Et qui louchent, non ?
C'est-à-dire qu'on appelle ça loucher, c'est-à-dire que les deux cordes vocales ne sont pas symétriques. Ça, c'est un don. On l'a ou on ne l'a pas. Mais tout le monde n'a pas ça, heureusement. 5% des imitateurs ont des cordes vocales symétriques. Mais le plus important, c'est qu'ils vont mimer au niveau du visage la mimique. C'est la caisse de résonance de ce qu'ils vont imiter. Et enfin, les notes dans lesquelles ils vont se mettre, les mots qu'ils vont choisir, le rythme vocal qu'ils vont choisir, vont être le rythme vocal de celui qu'ils imitent. Et à ce moment-là, c'est là où on voit que l'imitateur est l'artiste des artistes.
Merci beaucoup, docteur Jean Habitbol, d'être venu sur notre plateau nous conter tous les secrets de la voix. Je rappelle le titre de votre livre, La belle histoire de la voix, chez De Bock Éditions.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à un problème de pied, ou plutôt d'orteil. C'est quoi la lux valgus, ce qu'on appelle aussi l'oignon. On fait le point dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle de l'hallux valgus. Savez-vous ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle aussi l'oignon aussi, hein, vous savez, au niveau du gros orteil. Pourquoi ce gros orteil fait cette déviation ? Cela est-il douloureux ? Justement, Benjamin Lévesque a été vous poser la question. On écoute son micro-trottoir.
Hallux valgus.
Valgus, peut-être, la vulve, vagina.
Des champignons ? C'est pas des mycoses ? Au niveau des orteils, c'est les oignons sur les pieds. J'en ai. Les orteils tordus ?
Ah oui, d'accord. D'accord. Non, mais je vois très bien. En fait, ça s'appelle couramment un oignon.
Ça doit pas être très beau à voir pour le coup. On porte pas de tongs.
Le gros orteil vient se placer sur les orteils qui sont situés à côté.
C'est douloureux. Ça s'empire avec le temps et ça s'opère.
Il me semble qu'il y a plus de femmes qui sont touchées par cette maladie.
Il faut éviter les chaussures serrées. Pas des attelles, mais comme des pansements qui compensent un petit peu, quoi, qui amortissent les chocs et les frottements. Ouais, je pense qu'on peut remettre tes orteils en place, mais ça doit pas faire du bien.
Alors, est-ce qu'on peut remettre les orteils en place ? On va voir ça, Jimmy. C'est n'a rien à voir avec la vulve, comme certains le disaient. L'hallux valgus, c'est donc au niveau des pieds. Qu'est-ce qui se passe quand on a un hallux valgus ?
Alors, vous le savez bien, Mélanie, on appelle ça un oignon.
Non, moi, j'en sais rien, j'en ai pas.
Oula. Bah, secret médical oblige, mais c'est une déviation anormale du gros orteil vers l'extérieur, vers le deuxième orteil. Le premier os, le métacarpien. Métatarsien, pardon, il se déplace à l'intérieur, responsable d'une saillie qui frotte les chaussures et qui donne cet oignon douloureux.
Une espèce de bosse, hein.
Exactement.
Hein.
Et c'est ce qui peut parfois être douloureux. Et surtout, ça rend le chaussage, très difficile.
et donc, Jimmy, vous dites douloureux, c'est-à-dire que parfois, ça fait quand même mal, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, ça peut faire mal, mais souvent, il est indolore lorsqu'il n'y a pas trop de frottement. Et lorsque le cale est très faible, il n'y a quasiment aucune douleur. En revanche, avec le temps et le frottement, une inflammation se crée au niveau de l'articulation. Et à ce moment-là, ça donne ce qu'on appelle une bursite. Et l'oignon devient rouge, chaud, douloureux. Et c'est d'autant plus difficile de se chausser. Et en plus de ça, on va pas se mentir, c'est pas très beau. D'autant plus que de l'autre côté, on aura les orteils qui vont se recroqueviller et on va avoir des griffes à la place des ongles.
Oui, donc c'est pas génial, effectivement. Alors j'ai l'impression que c'est assez fréquent quand même ce problème, non ? Est-ce qu'il y a, il y a des gens qui sont plus exposés au risque d'oignon comme
oui,
vous ?
Oui, c'est 30% de la population âgée. C'est 2% des enfants quand même, malgré tout. Et dans 90 à 95% des cas, bah vous le savez, Mélanie, ça touche plutôt les femmes. Et globalement entre 40 et 50 ans. Vous ne les avez pas encore. Vous vous en rapprochez dangereusement. Mais voilà. En tout cas, on sait que les femmes sont plus touchées. Le fait d'avoir quelqu'un dans la famille, un parent qui a un anus valgus, vous donne plus de chances ou de risques d'en avoir, d'avoir ce qu'on appelle les pieds égyptiens, c'est-à-dire un avant-pied qui est plutôt large.
Ah, oui.
Un avant-pied large avec un long premier orteil. Le fait de porter des chaussures à talons, à bout étroit, être ménopausé parce que ça entraîne un relâchement des structures fibreuses qui favorise l'élargissement de l'avant-pied. Et puis, lorsqu'on a une pathologie rhumatoïde, notamment une rhumatismale, pardon, comme une polyarthrite rhumatoïde ou une anomalie du collagène, ça peut aussi vous donner cet oignon.
Bon, très rapidement, Jimmy, vous êtes fait opérer, donc ça va mieux.
Alors, avant l'opération, c'est le traitement de dernier recours, parce que finalement, on va essayer de redresser la colonne du pied. C'est un traitement chirurgical qui peut être douloureux, compliqué. On peut faire ce qu'on appelle des orthèses pour redresser l'orteil, un chaussage adapté avec parfois des chaussures orthopédiques. Donc bref, il ne faut pas hésiter à consulter et n'attendez pas que ça fasse mal pour aller voir votre médecin.
Et portez donc des bonnes chaussures. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc qui est bien chaussée. On va parler de ces gens qui n'aiment pas être touchés, caressés. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy.
Bonjour Catherine.
Les chaussettes de l'archiduchesse.
Oui, non, on se moque pas.
Alors, Catherine vous a écouté alors. Alors aujourd'hui, Catherine, on va essayer de répondre à la question. Vous allez répondre à la question que nous a envoyée un certain Bertrand. Je vous la lis. Je ne supporte pas d'être touchée. Les caresses m'insupportent, qu'elles soient dans le cadre de simples massages ou celui de la sexualité. Devrais-je me forcer un peu pour fluidifier mes relations sexuelles, comme me le suggère mon ami? Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, c'est fréquent les gens comme ça qui supportent pas être touchés, c'est bizarre quand même.
Alors c'est bizarre, oui, parce que donc, quand nous sommes, en fait, nous avons grandi avec les caresses, puisque dans le ventre maternel pendant 9 mois, eh bien notre corps s'est construit, notre système nerveux s'est construit sur la base des caresses de la paroi intra-utérine contre laquelle nous nous sommes bercés, lovés, etc.
Puis les mamans donc, qui caressent sans cesse leur ventre, j'imagine que les bébés à l'intérieur doivent ressentir quelque chose.
Oui aussi, bien sûr, mais de toute façon, quand bien même elle ne caresserait
la paroi,
c'est-à-dire quand bien même la mère serait très peu présente dans son contact conscient avec son enfant, de toute façon l'enfant bougeant dans la paroi intra-utérine, de toute façon se caresse. Et c'est pour ça qu'on retrouve chez tous les mammifères la recherche de la caresse. Le chien, le chat, enfin tous les mammifères cherchent à se caresser contre l'autre, cherchent la caresse de l'autre, cherchent à solliciter leur peau dans le lien à l'autre et dans le plaisir qu'ils vont pouvoir en retirer.
Jimmy ?
Mais du coup, ça cache pas peut-être un traumatisme, quelque chose d'ancien, puisque finalement, les câlins, tout le monde adore ça, même quand on est enfant, même si on n'est pas tous tactiles, ou voilà, il y a peut-être quelque chose, non ?
Absolument. C'est pour ça qu'effectivement, dès lors qu'on est dans la difficulté à recevoir des caresses, ça pose cette question-là. Qu'est-ce que j'aurais eu de traumatisme au sens physique du terme, c'est-à-dire être battu, c'est-à-dire être touché contre mon gré, intrusé dans mon enveloppe en quelque sorte, ou au contraire, toutes les douleurs psychologiques qui sont le manque d'être touché. C'est-à-dire que si pendant 9 mois j'ai été dans cette paroi intra-utérine, évidemment construite sur la base de cette normalité, et qu'ensuite il n'y a plus de contact avec l'autre, plus de contact avec la mère, ou que la mère meurt, ou qu'elle parte, qu'elle abandonne, ou qu'elle soit présente, mais ne prenne pas son enfant dans les bras, ne le contienne pas, eh bien l'enfant, pour se protéger de ce désir très fort d'être touché et qui pourrait le frustrer tant ça n'est pas possible, eh bien désinvestit la partie corporelle, la partie charnelle, pour ne pas souffrir du manque en réalité. Donc c'est souvent un contre-investissement d'un désir qui est refoulé en fait.
Alors Bertrand, il précise pas effectivement s'il a eu des difficultés de ce type dans son enfance ou même avant, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'il consulte là, je crois quand même. Il y a pas de pas pouvoir être touché comme ça, c'est quand même très très problématique, j'imagine, voire même handicapant. D'ailleurs, il nous pose la question, donc c'est qu'il veut trouver une solution.
Oui, parce que la sexualité sans être touchée est complexe, c'est-à-dire c'est réduire simplement le coït au coït. Et donc du coup nier l'autre qui devra de toute façon m'apporter quelque chose dans son contact. Donc effectivement ça handicape considérablement la sexualité. Et d'ailleurs il disait, faut-il se forcer? Tout dépend évidemment. Alors moi, se forcer, de toute façon, par définition, quelque
chose...
C'est
toujours non.
Oui, c'est-à-dire qu'à titre de quoi doit-on se forcer? Et puis si en plus on m'a fait du mal, vous pensez bien que me forcer ne va pas améliorer la défiance que je peux avoir, évidemment. Jimmy ?
Et s'il voudrait que ça aille un petit peu mieux, que ça change, est-ce qu'il pourrait commencer, je ne sais pas, par se caresser quoi, la main ou le dos ? Est-ce qu'il y a quelque chose par laquelle il pourrait débuter ?
Alors, il y a des thérapies d'abord psychologiques, là où on essaie de comprendre ce qui s'est passé ou ce que ça veut dire, etc. Et puis, il y a aussi des thérapies corporelles qui vont respecter cette prise de contact avec son corps, d'ailleurs parfois habillé, parfois avec des façons d'appréhender la proximité, pour essayer de voir comment on peut petit à petit, en étant acteur, et pas simplement récepteur de la caresse, mais acteur du contact, faire petit à petit...
Les thérapies cognitivo-comportementales, c'est ça un peu, les TCC
oui, par exemple.
On fait des petits exercices et pas à pas, on s'habitue à aller un peu plus loin, c'est ça ?
Absolument. Maintenant, l'hypnose peut être aussi intéressante pour émettre à jour le pourquoi du comment et aussi proposer une reprogrammation de la lecture que l'on a du contact à l'autre.
Et on peut guérir de ça ? Vous en avez déjà, je ne sais pas, croisé des patients qui avaient des difficultés à se faire toucher comme ça ?
Oui.
On
oui,
peut
oui.
guérir.
Alors,
vous êtes positive sur ce sujet-là.
D'abord, oui, croiser malheureusement, oui. Plus qu'une fois, évidemment, dans mon cabinet. Maintenant, effectivement, c'est un chemin long parce que ça doit de toute façon ne jamais représenter une injonction, mais participer de la prise de conscience du désir en réalité. D'ailleurs, s'il nous pose la question, c'est qu'il a le désir de passer à autre chose que cette défiance et cette distance qui fait l'aggravation de sa souffrance initiale en réalité. Et que, évidemment, s'il y a eu blessure, qu'il puisse témoigner, dire, et ne pas laisser sa peau dire, puisque d'ailleurs, souvent, quand on n'a pas les mots pour raconter nos traumatismes, on a les mots MAUX, et notre peau est souvent le premier langage pour raconter les douleurs qui ont été les nôtres.
Mais ça se soigne et ça peut prendre
un peu
de temps.
Absolument, voilà, ça peut prendre du temps selon, c'est là que c'est difficile, c'est selon évidemment l'ampleur de la douleur et de l'origine.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. On vous retrouve bien sûr demain dans son rendez-vous, une émission bien-être. On va vous donner plein de conseils pour avoir une belle peau, une peau qui reste jeune et un teint parfait en choisissant les bons produits, mais aussi attention à ce que vous mettez dans votre assiette.
15h, 16h, son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.